France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Jeudi 3 décembre, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du 7-9 à la une de l'actualité. Ce matin, la mort de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président a succombé au Covid-19. Il est mort hier soir entouré de sa famille dans sa propriété du Loir-et-Cher. Valéry Giscard d'Estaing avait 94 ans. Son septennat de 1974 à 1981 a transformé la France. Réagit ce matin Emmanuel Macron. Nous allons revenir en détail, évidemment, sur les grandes réformes, le droit à l'avortement, la majorité à 18 ans notamment, mais aussi sur l'affaire des diamants de Bokassa et les phrases cultes d'une stratégie de communication bien rodée. Nos invités ce matin à 7h15, le journaliste Patrice Duhamel, ancien directeur de France Télévisions, réalisateur de Giscard, de Vous à moi. À 7h50, Léa.
Celui qui a poursuivi le rêve modernisateur et européen de Valéry Giscard d'Estaing, il voulait faire de son parti l'UDI. L'UDF du 21e siècle, Jean-Louis Borloo sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, nous recevons dans le grand entretien le président du Sénat, sénateur Les Républicains des Yvelines, Gérard Larcher. Le standard est ouvert et attend vos questions. 01 45 24 7000. Et enfin à 8h50, Léa.
Oui, l'un des plus grands photographes français, Raymond Depardon, il avait suivi en 1974 la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing. Une partie de campagne, un film extraordinaire dont on parlera avec lui.
Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Les autres titres.
Dépistage massif et campagne de vaccination, la France sur tous les fronts pour lutter contre le Covid. Et puis le télétravail, oui mais pas trop, disent les salariés, toujours très attachés, comme nous, à la vie de bureau.
France Inter.
D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas.
10 mai 1974, débat de l'entre-deux-tours. François Mitterrand dira plus tard à Valéry Giscard d'Estaing que c'est cette petite phrase qui a fait basculer l'élection. Le 19 mai 1974, VGE, comme on l'appellera plus tard, devient effectivement le 20e président de la République. Et le plus jeune, il a 48 ans. Il arrive seul au volant de sa voiture personnelle à l'Élysée. Un vent de modernité souffle sur la présidence. Simon Le Baron.
Un président jeune, moderne et dynamique. Lui-même se voyait comme le Kennedy français.
Qui ne change pas, meurt. Et si la société française ne changeait pas, elle mourrait.
Les réformes sont donc lancées tambour battant. Dès le début de son mandat, il abaisse la majorité et par conséquent le droit de vote de 21 à 18 ans, malgré l'hostilité des jeunes électeurs à son camp politique.
Cette décision, c'est aussi un témoignage de confiance dans la capacité de la jeunesse française.
Le vote à 18 ans, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, je serai fort satisfait parce que cela me permettra de voter la prochaine fois. Prochaines élections.
Vient ensuite le divorce par consentement mutuel, dont les effets sont encore très concrets aujourd'hui pour des millions de familles.
Des dispositions sévères sont prises pour que les pensions alimentaires soient effectivement payées. Un organisme de recouvrement et de paiement des indemnités va être créé pour obliger celui qui les doit à les verser effectivement.
Et bien sûr, la plus emblématique des réformes, celle qui déchaîne les passions, la dépénalisation de l'avortement, portée avec un grand courage par sa ministre de la Santé, Simone Veil.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
Je crois que la situation actuelle, qui est celle en réalité à la fois de l'hypocrisie et de l'anarchie, n'est pas une solution que la France puisse considérer comme raisonnable et même comme humaine.
Trois réformes qui changent la société. Mais la quatrième, l'abolition de la peine de mort, Valéry Giscard d'Estaing ne la fera pas, malgré l'aversion profonde qu'il disait ressentir pour la peine capitale. C'est son successeur, François Mitterrand, qui prendra cette décision historique quelques mois après sa victoire sur Giscard en 81.
Un style nouveau donc, une communication au cordeau, des réformes profondes de la société encore en vigueur aujourd'hui. VGE a apporté modernité et audace à la France, réagit ce matin Richard Ferrand. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Pourtant Maxence, la popularité de Valéry Giscard d'Estaing s'est effritée tout au long du septennat.
Oui, à son arrivée au pouvoir, les 30 glorieuses appartiennent au passé. Le premier choc pétrolier vient de retentir. L'ancien ministre des Finances espère y faire face.
Le gouvernement fera le nécessaire pour vous protéger du chômage. Il en a la volonté et il en a les moyens.
Deux ans plus tard, la barre du million de chômeurs est franchie et son premier ministre Chirac claque la porte. Raymond Barre lui succède. Première cure d'austérité, premier décrochage dans les sondages. 1979, année noire, deuxième choc pétrolier, puis un suicide suspect dans la forêt de Rambouillet, celui de son ministre Robert Boulin, et surtout l'affaire des diamants du dictateur centrafricain Bokassa. VGE aurait reçu une plaquette de 30 carats.
J'oppose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison.
Les diamants sparadrap de son septennat qui le replace dans son costume d'aristocrate marié à la fille d'une comtesse. Ses efforts de communication sonnent de plus en plus faux, à l'image de ses vœux au coin du feu.
Je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses vœux.
À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux.
Valérie Giscard d'Estaing croit presque jusqu'au bout en sa réélection. Il ne digère pas son échec et encore moins la popularité de son éternel rival. Dans le cœur des Français, Jacques Chirac aura toujours eu une longueur d'avance.
Merci Maxence Lambrecq. Et nous reviendrons effectivement sur la rivalité entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac dans le journal de 8h. Cet échec en 1981 est le premier faux pas d'un homme brillant, bachelier à 17 ans, polytechnicien, énarque, député du Puy-de-Dôme à 30 ans, secrétaire d'État aux Finances sous De Gaulle, puis plusieurs fois ministre. Il était, vous l'avez dit, ministre de l'économie de Georges Pompidou lorsque ce dernier succombe à un cancer. Parmi les hommages ce matin, celui de Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture et neveu de François Mitterrand.
Il aimait la France profondément. C'est sans doute le dernier président qui a connu la France en guerre. Les hommes de cette génération-là, ceux qui ont connu la guerre, étaient d'une autre trempe, comme François Mitterrand d'ailleurs. Et il avait donc une relation charnel avec la France. Alors on s'est moqué des moments où il jouait de l'accordéon ou des moments où il allait dîner chez les Français. Mais en fait, il était totalement sincère. Il aimait la France profondément et le peuple français dans toutes ses composantes. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très émouvant.
Nombreuses réactions politiques, évidemment celle de François Hollande, pour qui la France perd un homme d'État qui avait fait le choix de l'ouverture au monde, en contribuant notamment au renforcement du couple franco-allemand, de l'Union européenne avec la mise en place de l'Union monétaire et l'ouverture du marché commun, VGE, l'européen. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Valéry Giscard d'Estaing, le président donc, qui s'invitait à dîner chez les Français, le président à la une de Tennis Magazine ou torse nu dans les vestiaires de Chamalières, qui jouait de l'accordéon et auteur de plusieurs romans. Le dernier, Loin du bruit du monde, est sorti il y a à peine un mois. VGE, membre de l'Académie française depuis 2003, mais sans vraiment convaincre, Ilan Amour-Youssef.
Il n'est pas besoin de dire que M. Giscard d'Estaing n'est pas Maupassant. C'est ce qu'a écrit la correspondante à Paris du Wall Street Journal après avoir lu Le Passage, le premier roman de l'ancien président, paru en 1994. Cette bluette sentimentale avait de quoi étonner de la part de Giscard. Charles, un notaire de province, s'éprend d'une jeune beauté blonde, Nathalie, sans H. L'accueil moqueur, réservé à son roman, ne décourage pourtant pas VGE. En 2005, il récidive avec la princesse et le président. Paris Match en fait sa couverture, Giscard et Diana, love story. La rumeur s'emballe, mais très vite il rectifie. J'ai inventé les faits, mais pas les lieux ni les décors. Son tout dernier a des accents plus graves. Loin du bruit du monde, met en scène un ancien président du Sénat qui décide un jour de disparaître pour se réfugier en Afrique. Aujourd'hui, l'énigme reste entière. Pourquoi un homme comblé d'honneur, à l'intelligence aussi sophistiquée, s'est-il obstiné dans une voie qui n'était manifestement pas la sienne?
Valéry Giscard d'Estaing, mort donc hier soir à 94 ans, victime du Covid-19. Il sera, selon ses volontés, enterré dans la plus stricte intimité familiale à Auton, dans le Loir-et-Cher. Nous y reviendrons bien sûr tout au long de ce 7-9 avec un premier invité à 7h15, le journaliste et documentariste Patrice Duhamel.
Il est 7h09, Agnès, dans le reste de l'actualité des campagnes de dépistage à grande échelle.
Le Premier ministre fera le point sur la pandémie lors d'un point presse avec Olivier Véran en fin de journée. Il devrait préciser la stratégie de vaccination choisie par la France alors que nos voisins britanniques vont commencer à se faire vacciner la semaine prochaine. La France qui fait aussi le choix du dépistage massif dans trois agglomérations, Saint-Étienne, Le Havre et une ville du Nord qui reste à préciser. Véronique Julia.
Tester beaucoup de monde et de façon régulière pour dépister les malades qui s'ignorent et les mettre à l'isolement, c'est le principe déjà expérimenté à l'étranger à l'échelle d'une ville comme Liverpool ou même d'un pays comme la Slovaquie. En France, bien que certains experts en défendent le principe depuis longtemps, le conseil scientifique ne penche pas pour l'instant pour un dépistage national. On manque de recul, la logistique serait trop complexe. En revanche, dans sa note publiée lundi, il recommande recommande l'expérimentation dans quelques métropoles avant la sortie du confinement numéro 2. Ça permettrait à une échelle relativement restreinte de tester l'organisation et de mesurer son impact sur la dynamique de l'épidémie. La condition pour que ça marche, c'est de répéter le dépistage tous les 15 jours. C'est aussi de faire respecter un isolement strict à ceux qui seraient dépistés positifs, ce qui nécessite, insiste le Conseil scientifique, des équipes et des moyens pour accompagner les patients dans cette démarche. Pour réussir, le dépistage massif implique en effet une très forte adhésion de la population. À Liverpool, la crainte de perdre ses revenus à l'isolement a pu freiner la participation dans les quartiers les plus défavorisés.
Emmanuel Macron va lui s'adresser directement à la génération Covid, la jeunesse durement frappée par la crise économique et sanitaire. Longue interview en direct sur Brut cet après-midi, puis rediffusée sur Snapchat. Il sera également question de discrimination, de violence policière et de protection de l'environnement. Et puis le gouvernement a annoncé hier soir la prise en charge par l'État du coût de 10 jours de congés payés pour les salariés des entreprises qui sont restées fermées au moins 140 jours au cours de cette année. Ces congés seront à prendre entre le 1er et le 20 janvier 2021. Coût global pour l'État, plus d'un milliard d'euros. Le travail, justement, et rien finalement, ne remplace la vie de bureau, sa machine à café et ses pauses clopes. Selon le baromètre Paris Workplace SFF IFOP, mené auprès de 1500 salariés, c'est la première étude qui permet de mesurer à cette échelle l'impact de la crise sur les attentes des salariés. Maxime Debs.
Trois quarts des sondés sont convaincus. L'entreprise demain, ce sera davantage de télétravail, mais seuls 37% le désirent vraiment. Arthur fait partie de ces salariés.
Je trouve que c'est très important de se retrouver au bureau. Et je pense que laisser le choix, c'est la bonne solution.
Il est rejoint par Colin, son collègue.
100% de télétravail, c'est pas forcément ce que moi je recommanderais, mais je serais plutôt un adepte du meilleur des deux mondes.
Tous deux travaillent chez Mano Mano, entreprise spécialisée dans la vente en ligne de matériel de bricolage et qui, avant le confinement, avait déjà instauré l'idée d'un jour télétravailler par semaine. Demain, ce sera deux pour ceux qui veulent, précise le patron Philippe de Chanville, qui entend laisser plus de latitude à l'avenir à ses salariés.
En fait, ce n'est pas tant une journée de plus ou une journée de moins, c'est comment est-ce qu'on s'assure que tout travail à distance est aussi bénéfique à la personne et aussi efficace pour le reste de l'équipe que le travail en présentiel, sachant que le travail en présentiel peut aussi ne pas être efficace.
L'efficacité, l'importance du lien avec les collègues, selon l'étude, idéalement, seuls 8% des salariés aimeraient travailler exclusivement à distance à l'avenir, contre 63% qui souhaitent continuer à venir au bureau au moins 3 jours par semaine.
Le télétravail, oui, mais pas trop, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et puis pour alimenter les conversations ce matin, tiens par exemple la victoire du PSG sur Manchester United hier soir en Ligue des Champions, 3-1, 2 buts de Neymar et 1 de Marquinhos. Les 8e de finale ne sont pas encore acquises pour les Parisiens, mais c'est en bonne voie. Et puis à discuter aussi le quadruplé d'Olivier Giroud hier soir avec Chelsea.
Magnifique, merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.